Robert Cohen, bonjour. Merci d'être avec nous de bon matin. Vous êtes pédiatre, infectiologue à l'hôpital de Créteil et président du conseil professionnel de pédiatrie. Merci de venir en cette veille de rentrée scolaire avec beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions très légitimes de la part des parents, des enseignants, peut-être aussi d'ailleurs des enfants. Ce sont les premiers concernés. C'est une rentrée qui est particulièrement incertaine à cause de cette déferlante du variant Omicron. Avant toute chose, une question que beaucoup de gens se posent, est-ce qu'il y a plus d'enfants à l'hôpital avec ce variant?
Alors il y en a un peu plus, mais il faut bien comprendre que c'est très 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 peu par rapport au reste des autres pathologies pédiatriques. Dans les hôpitaux d'adultes, c'est cette hospitalisation-là qui prédomine. Là, chez l'enfant, c'est 1-2% des hospitalisations. Le reste, c'est encore des bronchiolites, des grippes, des infections respiratoires graves. Et c'est ça, aujourd'hui, qui remplit les hôpitaux pédiatriques. Quand on dit on double le nombre de cas
d'hospitalisation,
doubler un, ça ne fait que deux. Je veux dire, c'est la question est là. Le vrai souci est la diminution du nombre de lits pour des tas de raisons qu'on connaît et l'importance des autres pathologies en même temps. Mais le nombre d'hospitalisations pédiatriques, je crois qu'il est agité comme un chiffon rouge, mais ce n'est pas la priorité pour nous. La priorité, c'est les autres pathologies. Bien entendu, il faut s'occuper de ce virus, mais ce n'est pas le problème essentiel.
Donc le variant, ce nouveau variant, ne crée pas d'infection plus sévère chez les petits?
Ah non, on n'a aucun argument pour penser aujourd'hui qu'il crée des infections plus sévère chez le petit. Donc ça, c'est vraiment pas le souci. On a eu ce doute-là au début en Afrique du Sud. C'est tombé. On a eu ce doute-là en Angleterre. On n'a jamais eu ce doute-là en Angleterre. Et au Danemark non plus. Non, non. La question n'est pas là. Mais par contre, il va y avoir plus de cas. Ce virus est plus contagieux. Donc forcément,
et c'est vrai aussi chez les petits, bien sûr.
C'est vrai aussi chez les petits.
Est-ce que vous êtes inquiet pour cette rentrée, sachant qu'en temps normal, pendant les vacances scolaires, ça décroît en termes de contamination, et que là, précisément, c'est exactement l'inverse qui s'est produit?
Alors, on ne peut pas dire que ça soit l'inverse. C'est-à-dire que je prends la tranche d'âge de 5-15 ans, de 5-11 ans, excusez-moi. Et on voit que ça a baissé. Mais c'est encore énormément de cas. Mais où ces enfants se sont contaminés? Dans leur famille. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que chez l'enfant, je ne dis pas qu'il n'y a pas de transmission à l'école, et peut-être qu'il y en aura encore plus avec le variant Omicron, parce qu'il se transmet dans l'air. C'est la distance entre nous deux ne suffit plus, là, puisqu'on est largement au-delà de 2 mètres. La qualité de l'air est fondamentale. Quand on a un virus aussi contagieux, il a forcément une transmission par les micro-aérosols qu'on émet en parlant, respirant, etc. Et ça peut être aussi plus compliqué au sein des écoles. Et la qualité de l'air dans les écoles devient un objectif majeur avec ce variant-là.
Alors justement, il y a la question des capteurs de CO2. Beaucoup d'enseignants, de syndicalistes disent on n'a que 20% de capteurs de CO2. Est-ce que c'est impératif de fournir ces capteurs dans toutes les classes?
Pour moi, c'est impératif, mais le capteur de CO2, c'est le thermomètre. Ça vous dit juste qu'il faut ouvrir la fenêtre, qu'il faut aérer. Ce n'est pas un traitement. On vous dit, tiens, et moi, j'utilise régulièrement depuis un mois un capteur de CO2 et je suis obligé d'aérer beaucoup plus souvent que je le pensais.
C'est un indicateur pour permettre de savoir vraiment.
Là, maintenant, il faut aérer. Vous voyez, par exemple, moi, je pensais que, comme c'était recommandé, 5 minutes ou 10 minutes par heure, ouvrir les fenêtres, c'était suffisant. Le capteur de CO2 montre que des fois, c'est suffisant et des fois, ça ne l'est pas.
Vous avez constaté quoi, finalement, sur une heure à peu près en moyenne?
Sur une heure en consultation, je suis obligé d'ouvrir pratiquement tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes.
Mais là, c'est un vrai sujet parce qu'on va arriver en plus dans une période où les températures vont redescendre la semaine prochaine avec les enfants qui risquent d'attraper froid. Bon, on imagine la galère dans les classes.
Attraper froid pour nous n'est pas un problème. Il suffit de plus parce que c'est un concept qu'on n'a pas facilement accepté en médecine et qu'on n'accepte toujours pas. Mais c'est surtout le fait qu'ils doivent être mieux couverts et puis on se couvre mais on ouvre les fenêtres beaucoup plus largement. Mais il y a des pièces qu'on ne peut pas aérer. D'accord, parce que les fenêtres sont bloquées, parce que vous êtes au 6e étage et que c'est dangereux pour les enfants. Enfin, on peut imaginer. Et là, il faut prendre d'autres mesures.
Lesquelles?
Par exemple, les purificateurs d'air qui sont normés tels qu'ils sont recommandés par le Haut Conseil de Santé Publique, c'est des mesures qui peuvent être efficaces aussi. Et c'est cette partie-là qui nous inquiète plus que l'ouverture des écoles. L'ouverture des écoles, C'est obligatoire. Ça va être compliqué parce qu'il va y avoir des enseignants malades, parce qu'il va y avoir plus de cas à l'intérieur des écoles, il va y avoir plus d'écoles fermées.
Et malgré tout, on l'a vu dans le rappel de titre, le protocole sanitaire ne change pas par rapport à la fin novembre. Est-ce qu'il aurait fallu davantage de mesures, comme le préconisent certains ?
Alors, les davantage de mesures, c'est quoi ? C'est la qualité de l'air. Ils portent déjà le masque des 6 ans. On ne va pas descendre en dessous de ça, déjà. On pourra peut-être en...
Bien sûr, on l'évoquera, évidemment. Mais sur les mesures,
on l'évoquera. Ils portent déjà le masque des 6 ans. Donc, c'est vraiment les mesures sur la qualité de l'air, sur tout le parcours de l'enfant, que ce soit dans sa classe ou que ce soit dans les couloirs ou à la cantine, qui devient un des points essentiels. Et puis, la deuxième partie, c'est augmentation du nombre de tests pour pouvoir dépister très tôt les malades et pour prendre les mesures en adéquation avec la situation.
Les tests salivaires, notamment, qu'il va falloir.
Alors, les tests salivaires, c'est une technique. L'autre technique, ce sont les autotests. Hein.
Pour les enfants, c'est quand même...
Oui, il y a des autotests qui sont extrêmement simples, que les enfants font eux-mêmes. Hein. On a travaillé sur ce sujet-là, qui sont très bien acceptés dès l'âge de 3, 4 ans, 5 ans. Ce sont les enfants qui les font eux-mêmes et qui sont une bonne indication sur le fait qu'il y ait des cas ou qu'il n'y ait pas de cas, ou qu'il y ait des enfants ou non contaminants, ou des professeurs ou non contaminants.
Alors, vous avez parlé de ce sujet qui peut fâcher certains, ce masque obligatoire dès 6 ans et non plus à partir de 11 ans. Ce sera dès demain dans les transports en commun, dans beaucoup de lieux publics. Est-ce que vous comprenez cette mesure ou est-ce qu'elle est totalement inutile ?
Ah non, dire qu'elle est inutile, je ne suis pas sûr qu'elle soit utile, mais je suis incapable de dire qu'elle soit inutile.
À quoi elle sert ?
Alors, la question, c'est à quoi elle sert ? Non, en milieu intérieur, porter le masque, du moment que c'est sur une période courte, ça a du sens. Ça a du
sens. C'est ce que font les enfants déjà.
C'est ce que font les enfants déjà. Mais quand je vois étendre cette mesure dans les villes aussi en extérieur, je dis ça va être extrêmement difficile pour les enfants. Imaginez-vous que dans les classes, ce sont pratiquement les seuls à porter le masque toute la journée, du matin au soir, quand ils sont à l'école. Et si en plus, maintenant, à l'extérieur, ils vont la porter, ça va être compliqué. Moi, je comprends la nécessité de freiner cette épidémie, non pas parce qu'elle est grave, mais parce qu'elle est grave en termes de risque de mortalité ou d'hospitalisation, mais parce que le
nombre de... Et d'impact, évidemment, sur l'hôpital.
C'est l'impact. Au moins, j'y vois un intérêt. C'est de freiner aussi les autres virus qui, aujourd'hui, remplissent les hôpitaux, c'est-à-dire la
grippe.
Et c'est
ce qui renvoie à ce que vous disiez en début d'entretien, en disant que, finalement, les services étaient plus remplis de, chez les enfants, bronchiolite, gastro-entérite, etc. C'est ça, votre...
Grippe.
Grippe, beaucoup.
Grippe.
La grippe revient.
À la grippe, dans certaines régions, on est en situation épidémique, hein, de façon assez aiguë. Et puis, il y a 3-4 jours, Santé publique France a lancé l'alerte. Il y a déjà plusieurs régions qui sont en phase épidémique. Donc, et puis, il y a beaucoup d'autres virus respiratoires et de bactéries respiratoires qui sont revenus, qu'on n'avait pas vus pendant très, très, très longtemps, parce que les mesures d'hygiène sont tombées. Donc, prendre plus de mesures, ça va réduire la charge de l'hôpital, non seulement pour...
Le Covid, mais également les autres infections.
Mais aussi les autres infections. Donc, on n'est pas complètement opposé en disant c'est pas possible. Le niveau de preuve, c'est pas la mesure que moi j'aurais pris personnellement. Et si elle a un début et une fin annoncée, parce que c'est pas possible de vivre en permanence pour les enfants comme ça, déjà ils souffrent du port du masque. À l'école, les plus petits, hein, c'est compliqué. Hein,
Mais pour beaucoup, ils sont quand même très résilients, très obéissants. Est-ce que vous êtes surpris de ça? Pourtant, vous les côtoyez beaucoup, les enfants, mais leurs capacités d'adaptation sont quand même assez impressionnantes.
Mais la difficulté, ce sont les plus faibles, comme d'habitude, les plus défavorisés. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont le plus de difficultés. Par exemple, si un enfant a les moins de difficultés auditives, parce qu'il a, par exemple, une otite séreuse ou il a des difficultés d'apprentissage, on accentue. C'est sûr que pour la majorité des enfants, les enfants, ce n'est pas un bloc compact comme tout le reste de la population. Et on s'aperçoit que là, on accentue les difficultés par le masque. Et puis, très rapidement, même si on doit passer par cette phase-là, parce qu'on comprend bien que l'explosion d'épidémie rend les choses difficiles, je vous rappelle que cette explosion d'épidémie s'est survenue pendant que les écoles étaient fermées. Je vois ce que qu'auraient dit les gens qui voulaient fermer les écoles depuis un an
si
ou deux ans, si ça s'était passé début janvier. Là, Excusez-moi, mais les enfants n'y ont joué aucun rôle.
La vaccination pour les enfants a commencé depuis plusieurs semaines. Beaucoup de parents sont réticents. Est-ce qu'il faut encourager à la vaccination des enfants ?
Alors, je crois qu'il faut encourager la vaccination des enfants, mais sans le caractère d'urgence qu'a la vaccination des adultes qui ne sont pas vaccinés et du rappel pour les autres.
Parce que de toute façon, pour cette vague-là, c'est trop tard.
On est d'accord, voilà, c'est ça. C'est dans ce sens-là. Mais il y a un moment ou un autre, en fonction de l'évolution des variants, en fonction de l'évolution des vaccins, en fonction des facteurs de risque, les enfants qui ont des risques, il faut tout de suite qu'ils soient vaccinés.
Mais ceux qui n'ont pas de risque et qu'on voudrait malgré tout protéger, on a suffisamment de recul, c'est la question que se posent les parents sur ce vaccin.
Le recul, nous, les pédiatres, nous avons attendu avant de faire cet encouragement. On a attendu d'avoir les résultats de pharmacovigilance américaine qui montrent que sur plusieurs millions de vaccinés et plus de 2 millions qui ont reçu de doses, on n'a pas vu de phénomène inquiétant. Donc déjà, ce côté tolérance, on en est sûr. Ce côté efficacité, bien entendu, il va dépendre du variant. Et là, c'est un peu plus difficile. Mais déjà, il faut déjà commencer les patients à risque, les plus grands, parce qu'ils sont en sixième. Les cinquièmes sont vaccinés, les sixièmes ne le sont pas. Ce n'est pas très, très, très cohérent. Donc, et puis, tous les familles qui le veulent bien entendu.
Il ne nous reste plus que quelques secondes. Même si Emmanuel est resté très prudent lors de ses vœux, il a quand même dit espérer entrevoir la fin, Emmanuel Macron, la fin de la pandémie. Un vœu pieux ou est-ce qu'on peut raisonnablement croire que le bout du tunnel n'est pas très loin, en tout cas pour 2022?
Alors, le mois de janvier va être très difficile pour tout le monde, en particulier pour les soignants, pour les hôpitaux. Ça, c'est clair, parce que la vague épidémique est puissante. Mais après, on peut imaginer qu'entre les programmes de vaccination et cette vague épidémique, qui a quand même l'avantage d'immuniser ou de rappeler les gens, on risque d'avoir une population qui est assez bien immunisée, avec beaucoup moins de cas au décours.
Donc 2022
Personnellement, je suis optimiste.
Très bien.
Et pour un mois de janvier, pessimiste.
Bon, alors, compliqué ce mois-ci, mais le retour des beaux jours après. Merci beaucoup, Robert Cohen, pour votre éclairage précieux en cette veille de rentrée scolaire avec toutes les inquiétudes que ça implique. Je rappelle que vous êtes pédiatre, infectiologue et président du Conseil professionnel de pédiatrie.